Semaine fatidique sur le plan fondamental, fondamentaux, semaine de la vérité, chers amis, il n'y aura pas de taco. Je vous le dis tout de suite, pour le S&P 500 cette semaine, il n'y aura pas de taco. Trump always chickens out. C'est terminé. Quelque chose de majeur va se passer entre le mercredi 30 juillet et le vendredi 1er août. Point complet. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Accrochez votre ceinture, soyez prêts à vivre la semaine fondamentale, la plus importante de l'été. Il y a, et je n'en rajoute pas, je vous garantis que je ne surjoue pas ce qui vous attend cette semaine, ce qui m'attend, ce qui nous attend tous en bourse. Entre le mercredi 30 juillet et le vendredi 1er août, vous avez à de rassembler la mise à jour de tout, et j'ai bien dit tout, T-O-U-T, et fermez les yeux et imaginez le tout en lettres capitales, en lettres majuscules. Tous les fondamentaux qui comptent sont rassemblés entre le mercredi 30 juillet et le vendredi 1er août. Tous ces fondamentaux vont forger la tendance, notamment du mois d'août, un mois d'août qui en plus sur le plan de la saisonnalité n'est pas très favorable, à un moment où le S&P 500 a rejoint, je vous le dis, le S&P 500 a dépassé son niveau de valorisation de janvier dernier et il a rejoint pile poil son niveau de valorisation de fin 2021 et rappelez-vous le bear market de 2022, attention je ne dis pas qu'un bear market va commencer, je fais simplement l'état des lieux fondamental et je vous dis que nous arrivons entre juillet et août, entre le 30 juillet et le 1er août sont rassemblés tous les fondamentaux qui comptent. Quand le S&P 500 est archi cher, vous avez compris, ces fondamentaux, pas un seul ne doit décevoir. Il faut que tous ces fondamentaux soient positifs et plus que positifs pour aller plus haut. Quand bien même, un moment ou un autre, le S&P 500 doit consolider, doit retracer, doit marquer une pause. Même, j'oublie toutes les considérations fondamentales. Et pourtant, cette semaine, alors, dans cette vidéo, je donne le plan. Je vous fais le topo complet. La première partie, ce sera les dates. Même l'adjectif décisif n'était pas assez important, donc j'ai choisi moment de vérité, moment fatidique. Entre le 30 juillet et le 1er août, vous avez tout. La Fed, le rapport NFP, le PCE, la date limite de négociation commerciale, le PIB du T2, plein d'indicateurs macro avancés et les résultats des GAFAM. God, y a tout. J'ai rarement vu, en l'espace de deux jours, une telle concentration de fondamentaux qui comptent. Et c'est pour cette raison que dans la première partie, je vais vous les rassembler et je vais vous les classer dans un ordre d'importance, dans un ordre de degré d'impact, en vous donnant des détails, en faisant un état des lieux de leur situation actuelle. Deuxième partie, S&P 500, saisonnalité. Non, malheureusement, août et septembre, c'est pas beau. Enfin, ce ne sont pas les deux mois les plus performants du S&P 500, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il se présente fin juillet tout en haut, record historique, record de valorisation de 2021, semaine incroyable du 30 juillet au 1er août, date limite alors pour la Chine c'est le 12 août, hein, je vais être précis, mais pour tous les autres pays c'est le 1er août, et le taco ça énerve énormément Trump, il veut plus entendre parler de ça, il ne veut plus que la presse ressorte taco, donc pas de marche arrière, on va au bout du bout cette semaine, nous allons au bout du bout. Troisième partie, donc oui, je vous referai un topo Valo SP500 rapide, rassurez-vous. Quatrième partie, cette semaine, des GAFAM. Quatre stars des GAFAM publient leurs résultats, c'est la clé. Ce secteur pèse un tiers du S&P 500, voire un peu plus. Et puis on fera une grosse partie technique, S&P 500, VIX, rendement obligataire à 2 ans, donc ce sera archi complet en cette semaine de vérité sur le plan fondamental. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Semaine fatidique, pas de taco pour le S&P 500. Bon, vous connaissez cette expression, taco. Trump always chickens out. Trump renonce toujours. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre commerciale, début avril, il n'a fait que reporter les échéances. Cette semaine, le 1er août, c'est la date fatidique. Un énième report serait très nuisible à sa réputation. Alors attention, la Chine, c'est le 12 août. Donc, pas de taco cette semaine pour le S&P 500. Qui dit pas de taco, alors s'il y a un nouveau report, okay, mais qui dit pas de taco dit il faut transformer. Il faut des bons fondamentaux. À un moment où le S&P 500 est sur ses records historiques, et à un moment où en termes de valo, il a retrouvé ses records de fin 2021. Donc attention, attention. Le plan de cette vidéo, je vous l'ai donné à l'instant dans l'introduction. Je vous remets ici ça à l'écrit. Mais ce qu'il faut d'abord bien avoir conscience, c'est que nous allons vivre cette semaine, l'expression est un peu forte, la semaine de vérité, c'est peut-être même la semaine de la mort sur le plan fondamental. Alors, de la mort entre guillemets, bien sûr. Bon, mais j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu, en l'espace de 48 heures, autant de données fondamentales macroéconomiques et microéconomiques rassemblées. Et je pense que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Chacune d'entre elles doit donner de l'air au marché. Car le marché étant tout en haut, le marché s'exposant à un retracement, le marché s'exposant à une correction, à une phase de prise de profit, mais dans le sens consolider la hausse, lui donner de la structure. My God, ça ne sert à rien de monter en ligne droite. Ça ne fait que créer des excès qui seront corrigés par des excès. Par contre, de temps en temps, faire un retracement bien construit ou un trading range court terme, c'est bien, ça donne du corps au mouvement, et plus un mouvement a de corps, plus haut il ira. J'appelle à la patience. C'est que les investisseurs n'aiment pas ça, surtout ceux qui collent tous les jours à leur graphique. Mais moi, je colle tous les jours à mes graphiques. Et je suis patient. Et les séances de rouge et les semaines de rouge, je les prends avec sérénité, car elles ont toujours construit la tendance haussière de fond. Toujours. Alors, rappelez-vous ma sérénité dans le drop d'avril. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc a remonté plein de balles. C'est toujours pareil. Bon, alors, nous ne sommes pas. Alors, première chose, effectivement, c'est une semaine archi lourde sur le plan des fondamentaux. Je vous ai rassemblé tous les fondamentaux qui comptent dans ce tableau. Et je vous ai mis un ordre d'importance. Alors, la meilleure façon de visualiser l'ensemble de ces fondamentaux qui comptent, c'est d'aller sur l'agenda macroéconomique. Donc, entre le 30 juillet et le 1er août, c'est juste l'orgie totale. Avec le 30 juillet, donc, une décision de politique monétaire de la Fed. Le 30 juillet, la première estimation du PIB américain au second trimestre. Le 31 juillet, l'inflation PCE. L'indice d'inflation favori de la Fed. Des statistiques d'emploi dans tous les sens, le PCE, et le vendredi 1er août, le rapport NFP. Attention, le PCE et le NFP tombent après la Fed. Donc, la Fed ne va pas baisser ses taux ce mercredi 30 juillet, sauf énorme surprise. Par contre, tous ces chiffres du 31 juillet et du 1er août vont agir sur la décision de politique monétaire du mois de septembre. Et actuellement, c'est équiprobable en septembre. C'est du 50-50 pour savoir si la Fed baissera ses taux. Et Popo, Jérôme Powell, est à la tête de la Fed jusqu'en mai 2026. Donc, il va pas craquer s'il n'a pas les fondamentaux qui lui permettent de craquer. Craquer, j'entends baisser les taux. Et oui, on en a là. Et le 1er août, la date limite de négociation commerciale. Donc, je vous ai rassemblé dans ce tableau toutes les fondamentaux qui comptent. Je vous ai mis ici un petit commentaire que vous pouvez lire tranquillement. Et je me suis permis, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je me suis autorisé à vous proposer un classement, à savoir dans l'ordre d'importance. J'estime donc, à mon humble avis, que la date limite de négociation commerciale du 1er août un niveau d'impact cette semaine sur le marché de 10 sur 10. C'est tellement fort que j'en suis resté muet quelques secondes. C'est la date fondamentale la plus importante de la semaine. Et c'est là justement aussi où se joue le fameux taco. C'est-à-dire que, alors attention quand même, bon, le Japon s'est fait pour la Chine. C'est le 12 août. Et des bruits de couloir sont déjà en train de dire que ça pourrait être reporté au-delà du 12 août. Alors vous voyez. Pas de taco cette semaine pour le S&P 500. Peut-être, pour un certain nombre de pays, il n'y aura pas de taco, c'est 1er août. Mais la Chine. Et la Chine. Encore un report? Bon, voilà. En tout cas, 1er août pour tous les pays, 12 août pour la Chine, c'est majeur. Ensuite, deuxième point, vous avez la décision de politique monétaire de la Fed le mercredi 30 juillet. Importance 8, pas 10, pourquoi? Parce que la Fed passera pas assez tôt, parce qu'il n'y a pas de mise à jour de projection macroéconomique. Par contre, vous aurez un communiqué de presse, vous aurez une conférence de presse. Et dans l'interprétation des mots de ce communiqué de presse, et dans l'interprétation de la conférence de presse de Powell, nous allons savoir si la Fed s'inquiète des tarifs douaniers. Parce que tous les tarifs douaniers, eh bien, ça y est, ils vont rentrer en vigueur le 2 août. Et je vous renvoie vers le Top Gun de la semaine dernière, où j'ai évalué quel serait l'impact sur l'inflation PCE de ces tarifs douaniers à partir de la rentrée, plus 0,3, plus 0,4. Je vous rappelle que le PCE sous-jacent est actuellement à 2,7. D'ailleurs, cette semaine, vous avez donc la mise à jour du PCE. La mise à jour du PCE, je lui ai mis une importance de 7 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'il est attendu stable, en fait. Le PCE core est attendu à 2,7. Et en réalité, la vraie question, c'est à partir de la rentrée, où le gros des tarifs douaniers... Alors, si c'est du 15% pour tout le monde, ça va être limité, mais quand même... Si vous voulez, ça peut maintenir le PCE core à 2,7, 2,8, 2,9, voire 3. La Fed, elle veut du 2. Hein. Elle n'en est mort pas. Elle veut du 2. Elle veut du 2. Alors, sauf si l'emploi décroche. Et c'est pourquoi, en troisième position, devant le PCE, j'ai mis le rapport NFP avec une note d'impact de 8 sur 10. Parce que seule une dégradation massive du marché du travail peut amener la Fed à pivoter. La Fed qui donc prend une décision de politique monétaire ce 30 juillet, mais il n'y a pas de petit astérix, il n'y a pas de mise à jour des projections macro. Je vous rappelle qu'au stade actuel, la probabilité que la Fed baisse ses taux ce 30 juillet, c'est 2%, donc c'est zéro. Mais par contre, il y a vraiment une bataille de chiffres pour le 17 septembre. Lorsque vous agrégez les anticipations de politique monétaire du marché avec les anticipations de politique monétaire du FOMC, c'est pas vraiment du 50-50, mais c'est 60% en faveur d'une baisse de taux le 17 septembre et excusez-moi, et 40% sans baisse de taux. Donc voilà, c'est tout ça est archi serré. Et avec un S&P 500 aussi haut, il va falloir de l'air en provenance des autorités monétaires. Alors, attention. Certains souhaitent que justement le chômage décroche. Alors, n'oubliez pas, cette semaine, vous avez la Fed le mercredi 30 juillet. Vous avez l'inflation PCE le jeudi 31. La Fed regarde le core PCE. Tout le problème est là. Le problème est sous vos yeux. Il n'y a pas de vague d'inflation. Il n'y a pas de vague d'inflation. Il y a une pause dans la désinflation. Il y a un trading range, hein, si je reprends un terme d'analyse technique. Vous l'observez comme moi. Il y a un trading range sur le PCE core. Sauf que il manque un étage. La Fed, elle veut le ramener là. Tout ça, elle veut le mettre ici. Et si ce rectangle, descend là, c'est bon, baisse les taux. Tant que ce rectangle est ici, non. Et en fait, ce que craint la Fed, c'est que ses tarifs douaniers qui vont entrer en application à partir du 2 août et qui sont pas à 10, du coup, ils sont plutôt à 15, 20, eh bien, maintiennent ce rectangle sur longue période, voire même que le PCE core remonte plutôt dans la partie haute, soit autour des 3, et avec un PCE core à 3, il n'y a pas de baisse de taux, sauf si il y a une hausse du taux de chômage. Mais le taux de chômage, selon les derniers chiffres connus, est lui aussi parfaitement plat tout en bas. Donc vous avez un range tout en bas du taux de chômage, et vous avez un range à mi-hauteur de l'inflation PCE. Double range, pas de baisse de taux. Point final. Le problème, attention, c'est que si le chômage s'envole et que la Fed baisse ses taux à cause de la hausse du chômage, dans un premier temps, le marché action va prendre sa claque. Si le chômage s'envole, c'est que l'économie ralentit, c'est qu'on tend vers la récession. Dans un second temps, la baisse des taux fera monter le marché action, mais dans un premier temps, il y aura un choc. Attention à ça. Comprenez donc bien une chose. Cette semaine, du 30 juillet au 1er août, tout ce dont je vous parle là va être mis à jour. C'est fantastique, c'est une semaine incroyable. Il y a le suspense. Moi, j'adore vivre ce genre de semaine. Ça avance. On a les infos fondamentales. On y voit plus clair. Enfin, Vous allez voir qu'à coup sûr, à la fin de la semaine, tout aura été mis à jour et qu'on n'y verra pas plus clair. Sauf, par contre, pour les tarifs douaniers. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre septembre-octobre pour voir l'impact sur l'inflation. Bon. En tout cas, qu'est-ce qui a compté vraiment ? Mercredi, la Fed, ce sera un non-event. Je peux déjà vous dire ce que Jérôme Powell dira. Nous avons besoin de davantage de signes de la désinflation. Au stade actuel, ni l'emploi ni l'inflation permettent d'autoriser une baisse des taux. Alors, par contre, dans la conférence de presse, il va préciser si la Fed, comme prévu, envisage deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il n'y a plus que trois réunions après. Donc, et là, s'il commence à fermer la porte à ça, donc on va voir aussi dans sa conférence de presse, est-ce qu'il commence à subir l'impact de la pression de l'administration Trump ou pas ? Tout ça va être hyper important. Mais au fond, je pense que la semaine prochaine, le PCE est attendu flat. Donc, pour moi, vraiment, ce qui est majeur la semaine prochaine, c'est bien sûr la date limite pour la négociation commerciale. Bon, si tout ça... Alors, attention, la Chine, c'est le 12 août, hein, attention. Si encore pour tout le reste... Normalement, pour tous les autres pays, c'est pas reporté. Et le NFP. Parce que si ça commence à se tendre sur le marché du travail, mais pas trop, ça se tend, mais pas trop, on pourrait avoir une baisse de taux un peu plus saine en septembre. Alors, ce qui serait vraiment une bonne surprise, ce sont des chiffres d'inflation PCE inférieurs aux attentes. Parce que quand même, là, ça va être le PCE du mois de juin, il y a quand même tous les tarifs douaniers en place depuis avril qui sont là, même si ce n'est pas les plus importants. Donc, si on a une bonne surprise sur le PCE et que ça se tend un peu sur le marché du travail, donc si, peut-être qu'on a une fenêtre de tir pour une baisse de taux jugée saine et donc peut-être de l'air pour le marché action qui en a besoin, même si au final, quels que soient les fondamentaux, il pourrait simplement, sur le plan technique, entrer en retracement parce qu'un mouvement haussier se construit avec des impulsions, des retracements, point final, Donc c'est pour résumer, c'est une semaine de vérité sur le plan fondamental. Hein, voilà. Le moins que l'on puisse dire. Notez que l'inflation temps réel, mesurée par True Inflation, continue d'osciller autour de la cible de la Fed, autour des 2%, et que l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit que le PCE Core est stable sur les deux prochains mois. Hein, donc bon, voilà. Tout ça fait que cette semaine est très importante sur le plan des fondamentaux. Alors, la partie technique du S&P 500, j'en dis un mot à la fin. Je voulais d'abord parler de saisonnalité. Ces statistiques, ça compte toujours vraiment. Regardez par exemple, on a eu un très bon mois de juillet. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a eu un mois de juillet très favorable pour le S&P 500. Mais regardez, en termes de saisonnalité, lorsque vous prenez la performance moyenne du S&P 500 depuis 1945, juillet est un des meilleurs mois, d'accord ? Toute cette période a validé la saisonnalité. Août et septembre sont les deux moins bons mois. Donc, rappelez-vous, août 2024, on avait commencé par un énorme flash crash sur les actifs risqués. Actions crypto. Et c'était reparti à l'os après. Donc, comprenez pourquoi j'en rajoute un peu. Non seulement vous avez des fondamentaux hyper importants concentrés entre le 30 juillet et le 1er août. Le S&P 500 est au plus haut, la valo est au plus haute, et nous entrons dans une période de saisonnalité moins favorable. Tout ça, ça fait un cocktail un peu explosif. Pour autant, la performance moyenne d'août est positive. C'est surtout septembre qui n'est pas top. Mais voilà, c'est simplement, ayez conscience de ça. Et il faut en avoir d'autant plus conscience que le S&P 500, selon le cap ratio ou PE Chiller, a donc retrouvé son record de fin 2021 en dépassant le record du mois de janvier dernier. Effectivement, vous avez ici donc le price earning de Chiller qui est à 38,29 pour le S&P 500, dépassant donc le record de 37,70 de janvier dernier et voilà, pile poil, le record de la fin de l'année 2021, à l'époque, bien sûr, le bear market. Alors, la guerre en Ukraine, la vague d'inflation, la hausse des taux, le contexte était différent. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'on retrouve un niveau de valo qu'on va refaire la même chose. Et on arrive à un niveau, fondamentalement parlant, ou pour aller plus haut, il ne faut pas avoir de mauvaises surprises fondamentales. Et j'ai trouvé ça percutant que cela arrive au moment où on a une semaine incroyable, que je dis de vérité, sur le plan fondamental. Alors, je vous ai parlé là des fondamentaux classiques. Eh bien, autre chose à signaler, cette semaine, non seulement voit des fondamentaux macroéconomiques majeurs être mis à jour, entre le 30 juillet et le 1er août, et vous n'allez pas me croire, entre le 30 juillet et le 1er août, vous avez tous les GAFAM, tout le reste des GAFAM qui publient. Quatre GAFAM qui publient. Microsoft, Apple, Amazon, Meta. Microsoft, Apple, Amazon, Meta publient leurs résultats trimestriels mercredi et jeudi. Ces trois journées, mercredi, jeudi, vendredi, vont être incroyables. Ça va être incroyable. Et je vous rappelle que ces valeurs appartiennent au secteur Communication Services et Information Technology et que l'ajout de ces deux secteurs, ça pèse quasiment la moitié du S&P 500. Ce sera donc très important. Et lorsque vous prenez les secteurs du S&P 500 et que vous regardez le secteur de la tech, le machin est tout en haut. Tout en haut. Alors, c'est bullish, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut à un moment ou à un autre faire un pullback ici, ce qui serait une super opportunité d'achat. Donc, voilà. Même les stars de la tech, c'est aussi cette semaine leur moment de vérité. Alors, attention, hein. Je joue un peu cette vidéo-là. J'en rajoute. Et j'ai pas le choix. Parce que lorsqu'on sort comme ça d'une période d'euphorie, l'investisseur particulier a tendance à considérer que l'inertie haussière peut continuer. Envers et contre tout. Non, c'est pas possible. Et non seulement déjà, on écarte tous les fondamentaux. D'un point de vue technique, c'est très sain de retracer. Lorsqu'on fait des hausses verticales comme ça, moi, j'observe que souvent, retracer 38,2 ou 50%, c'est bien. Et c'est une opportunité d'achat. Et ça permet d'acheter sur support. Ça, c'est la règle. En tendance haussière, je pense à un message que m'envoie ma sœur la semaine dernière. Rien à voir, c'est sur le marché crypto. Elle me parle d'un jeton, c'était le XRP. Elle me dit, ah Vincent, je viens de voir la loi favorable aux cryptos est passée aux US, là sur les stablecoins. Est-ce que je peux acheter le XRP? Pourtant, ma sœur, je l'ai souvent au téléphone. Et elle sait très bien que, en tendance haussière, oui, on cherche à acheter, mais sur support. Et donc, je lui ai répondu, c'est haussier, mais timing n'est pas bon. Voilà. Et pourtant, elle a été très forte, hein, puisqu'elle elle a souvent vendu sous résistance, acheté sur support. Et j'entends par là qu'en période d'euphorie, on peut parfois perdre sa méthodologie de base et se jeter sur le marché. Eh bien, après l'inertie haussière des actifs risqués sur les dernières semaines, face à une telle semaine là qui démarre, retracer, je ne sais pas si ce sera le cas. Si les fondamentaux sont superbes, ce ne sera pas le cas. Mais quand bien même on enlève les fondamentaux, juste retracer sur le plan technique n'est absolument pas choquant et même classique. Et il faudra même, et si vous voulez, même l'argument qui va dire « Ah bah c'est de la faute des fondamentaux si on retrace », non, parce que c'était peut-être écrit que cela devait arriver, parce qu'un mouvement, c'est une alternance d'impulsion et de retracement. Cette semaine, il faudra en faire un bilan technique. Là, vous regardez la vidéo lundi, mardi, mercredi peut-être. Ça ne sert à rien de faire du focus graphique. On va regarder tous les charts. J'entends par là qu'en fin de semaine, je pense que trois clôtures seront majeures pour interpréter la façon dont les fondamentaux seront lus par la haute finance. Naturellement, premier baromètre, le S&P 500. Le S&P 500 pour lequel je vous ai proposé dans le Top Gun de la semaine dernière mes objectifs de fin d'année. Je vous invite à la reprendre cette vidéo. Elle concerne le moyen long terme. Je ne le refais pas et tout reste parfaitement valable. Pour ce qui est du court terme, au moment où j'enregistre cette vidéo, je l'enregistre avant lundi donc ce sera peut-être le cas, mon message est de dire attention au retracement court terme. Depuis le breakout ici du 27 juin, il n'y a pas eu de retracement. J'aurais aimé, moi, voir ici un pullback sur l'ancien record. Vous voyez, ici, là, plutôt que faire un range, si on avait fait un pullback et qu'on était reparti, je n'aurais pas mis en garde. Le problème, c'est qu'on l'a pas fait. Et dites-vous bien une chose, on le fera un jour. Et on le fera quand vous ne vous y attendrez plus. Et quand on le fera, l'investisseur moyen sera en panique. Oh mince! Non, c'est normal. C'est comme ça que ça se marche, un mouvement. Bah, tenez. Regardez par exemple ici. En janvier 2024, on casse l'ancien record, ça passe, et on se dit on n'y reviendra jamais. Et bah, on y est revenu avec la guerre commerciale. Ce sera pareil pour ce niveau. On finira par y revenir. Et donc, c'est pourquoi moi, si on y était revenu d'abord à court terme et reparti, on n'aurait pas eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, voilà. Alors, là, le mouvement est propre. Idéalement, voilà, c'est... Alors, le premier support est à 6335. Si on le réintègre, on viendra tester cette zone-là. Mais pour le moment, vous voyez que quand j'enregistre la vidéo, on ne casse pas de support, il n'y a rien, ça reste bullish. Il n'y a pas vraiment d'alerte sur le plan quantitatif. On n'est pas encore en zone rouge sur le plan quantitatif. Attention, le réservoir des vendeurs se vide, mais on a un équilibre des forces entre les deux. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que si on reteste cette zone, c'est bullish. Et pour mes objectifs de fin d'année, vous avez le top gain de la semaine dernière. Et oui, ils sont au-dessus du niveau actuel des cours. Alors, deuxième graphique qu'il faudra absolument suivre cette semaine, c'est le taux obligataire américain à 2 ans, qui est le taux du marché qui est considéré comme celui qui anticipe le mieux le cycle des taux d'intérêt à venir de la Fed. Et là, regardez comme il est couvert par le nuage du système Ishimoku en hebdo, soutenu par la moyenne mobile à 200 semaines. En journalier, tant que le taux obligataire à 2 ans se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours, la probabilité d'une baisse de taux en septembre est forte. Tout dépassement du taux obligataire à 2 ans de la SMA 200 rendrait improbable une baisse de taux en septembre. Le VIX est à suivre de près, puisqu'il est en train de tester cette trendline, et qu'une cassure de cette trendline, effectivement, serait un signal méga bullish pour le marché action. Donc, encore une fois, je conclue. Loin de moi l'idée de tirer un signal d'alarme sur le S&P 500, d'accord ? J'estime qu'il ira plus haut cette année, et vous connaissez mon point de vue de fond, tout mon argumentaire lié à la liquidité, à plein de choses. Simplement, par expérience, je sais que dans les phases d'euphorie comme ça à court terme, on a tendance à croire que les retracements, les consolidations, parce que ça n'arrange personne, ça n'existe plus. Ben si. Et donc, si vous regardez cette vidéo lundi, mardi, et qu'on est en consolidation ou en retracement, soyez rassurés. Ne paniquez pas, c'est normal, ça construit le mouvement. Et revenir ici serait une opportunité technique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté.